Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Nous attendons Noël, nous sommes le troisième dimanche de l'Avent et nous voulions réfléchir à la façon dont Marie et Joseph aussi attendaient cette naissance. C'était pas tout à fait simple pour eux. Donc soyez les bienvenus. Il arrive, celui qu'on attendait. Connaissez-vous son nom ? Nous allons vous le dire. Et dans vos cœurs, son nom chantera comme une flûte. Dans le silence brumeux de la nuit et sur la place du monde, son nom éclatera comme des poussières d'étoiles. Portes, ouvrez-vous. Sur les chemins, faites de la place. Préparez vos maisons. Posez des lumières sur vos fenêtres. Sachez que la longue attente est terminée. Levez la tête, redressez-vous. Aujourd'hui, lumineuse sera la nuit et resplendissant sera le jour, car il arrive, l'enfant qui change le monde.
Le voici, l'enfant qui change le monde. Sur son visage danse le sourire de Dieu. Le voici, il reste avec nous et la joie des hommes devient la joie de Dieu. Le voici, il reste avec nous et la souffrance des hommes devient la souffrance de Dieu. Le voici, il reste avec nous, et l'amour des hommes devient l'amour de Dieu. Le voici, il reste avec nous, et ses paroles portent la vie en elles, comme un printemps gonflé de promesses. Alors, connaissez-vous son nom ? Nous allons vous le dire, et nous voudrions tellement qu'il reste attaché à votre cœur. Il s'appelle Emmanuel, et sa naissance est une bonne nouvelle pour tous les hommes, car il est Dieu avec nous.
À Noël, Dieu entre dans l'histoire humaine à un moment précis et dans un lieu précis. Nous sommes invités à découvrir comment Jésus a vécu, agi et réagi en symbiose avec ses contemporains et ses compatriotes. Quelle joie, Seigneur, de te croire avec nous aujourd'hui, devenu à Bethléem, enfant de chez nous, un habitant de la terre, de Karachi, de New York, de Johannesburg, de Tulé, de Paris ou de Tbilissi. Quelle joie, Seigneur, de te croire avec nous aujourd'hui, en ce monde que nous aimons et qui est soumis aux convulsions de l'histoire, en ce monde que nous gravons à coups de poing, à coups de sang répandu et de pacifique réconciliation.
Toi qui nous connais, Seigneur, et pour qui nous n'avons aucun secret, tu vois notre intérieur où personne n'accède. Tu vois nos larmes et nos crispations, la misère de notre volonté, la danse titubante de nos décisions et aussi le péché qui s'enroule autour de nos désirs. Il n'y a rien d'extraordinaire en nous, Seigneur. Nous ne sommes que des gens ordinaires. En nous se côtoient idéal et mesquinerie, beauté et laideur, égoïsme et générosité. Simplement, notre fragilité reste inscrite dans l'argile qui nous façonne. Et toi, Seigneur, tu viens nous fréquenter. Tu viens définitivement t'établir chez nous. Et toi, Seigneur, connaissant tout de nous, tu viens te lier d'amour avec nous. Tu regardes seulement nos mains levées, en attente affolée de beauté et de pardon.
Seigneur, ton évangile est une nouvelle qui dépose la joie dans les terres humaines. Ton évangile est un chemin qui emporte jusqu'aux confins de l'amour. Ton évangile est une vérité qui éclaire les chercheurs de Dieu. Ton évangile est une faiblesse qui sauve le monde. Ton évangile est une croix qui étend ses bras sur toute l'humanité. Ton évangile est une passion qui se donne jusqu'à la déchirure. Ton évangile est une vie qui renverse les forces de la mort. Ton évangile est le soleil de nos jours.
cette bonne nouvelle, je vous propose de l'écouter d'abord dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7. Le Seigneur parle à Akaz, roi d'Israël, en ces termes. « Demande un signe pour toi, au Seigneur ton Dieu. Demande-le au plus profond ou sur les sommets, là-haut. » Akaz répond, « Je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Le prophète dit alors, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu ? Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfante un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. »
Écoutons encore cette bonne nouvelle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus.
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Nous vous parlons aujourd'hui de Joseph et de Marie, d'après l'évangile de Matthieu que nous avons lu. Et les intermèdes musicaux sont des sonates pour flûte, des extraits de sonates pour flûte de Handel. Donc dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas de crèche, pas d'âne, ni de bœuf, pas non plus de berger. Le héros de l'histoire, c'est Joseph, Joseph qui retiendra aujourd'hui toute notre attention. Joseph, le drôle de père. Enfin, une sorte de père, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que son histoire ne ressemble pas vraiment à celle d'un père classique. Joseph est fiancé à Marie, ils sont déjà engagés l'un envers l'autre. Le couple ne vit pas encore ensemble, et voilà que Marie fut trouvée enceinte, avec dans le texte original ce verbe au passif, qui indique que l'événement la dépasse. On peut comprendre alors le trouble dans lequel se trouve Joseph, car Joseph est quelqu'un de juste, c'est un homme croyant, fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Il est sans détour et on imagine sans peine sa déception, ses interrogations et son incompréhension. Marie est enceinte et Joseph prend le train en marche en quelque sorte. Que faire dans un cas pareil ?
Joseph prend le temps de se mettre à l'écoute de sa conscience. De qui est cet enfant ? Quoi qu'il en soit, il ne peut pas prétendre que cet enfant est le sien. Marie aimerait donc quelqu'un d'autre, mais qui ? Comment Joseph va-t-il assumer cet enfant comme le sien, alors qu'il n'est pas de sa propre chair ? Et au fait, c'est quoi être juste ? Ici, c'est un cauchemar. Il reste à Joseph le choix de quitter Marie et de faire le deuil de sa vie avec elle. Si Joseph respecte la loi, il dénonce publiquement Marie et il ne tient pas compte de son avenir. Ou alors, il la quitte secrètement et il préserve l'avenir de Marie. En pensant à quitter Marie secrètement, Joseph, sans le savoir, fait déjà place à la confiance, aussi précaire qu'un souffle léger, aussi petite qu'une graine de moutarde.
Donc Joseph pense à quitter Marie secrètement. C'est un choix difficile. Heureusement, une aide extérieure va éclairer son dilemme, car Joseph a un songe. Au cours de son sommeil, un intermédiaire, un messager appelé ange du Seigneur, l'aide à comprendre sa situation. Au milieu de ses interrogations multiples, Joseph reçoit des réponses qui l'invitent à accueillir cet événement qu'il ne maîtrise pas. Le messager lui dit qu'il peut garder sa femme, la femme qui lui est promise. Il reçoit la confirmation que l'enfant à naître n'est pas de lui, mais de l'Esprit-Saint. Il apprend que cet enfant deviendra son fils. Il lui donnera un nom. Il lui apprendra également à grandir.
L'ange insiste sur le nom de l'enfant. Ce nom orientera son caractère et sa destinée, et ce n'est pas rien. Il donnera à cet enfant le nom de Jésus, ou Yeshua, qui veut dire « le Seigneur sauve ». Ce nom vient de Yehoshua, qui signifie « Yahvé est mon salut ». Cela fait de Jésus un Dieu sauveur. Et le rédacteur de l'Évangile précise « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Mais qu'est-ce que cela veut dire ? De quel salut s'agit-il ? Tout d'abord, on pense au salut politique, à la manière d'un nouveau roi David. C'est la définition du Messie qui rejoint l'attente fondamentale du peuple d'Israël. Mais quand Matthieu écrit son évangile, il s'agit de tout autre chose. Dans son évangile, ce que Matthieu écrit, ce n'est pas un récit historique, mais c'est son témoignage sur ce qu'il a compris du ministère et de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et c'est cela qu'il veut faire comprendre et transmettre. Il voit dans ce que Jésus a dit et a fait l'accomplissement d'une promesse ancienne que Matthieu fait remonter au moment de la conception de Jésus.
Matthieu fait glisser le sens de la prophétie d'Ésaïe sur la personne de Jésus, une prophétie qui s'adressait d'abord au roi Achaz et à la maison de David à laquelle Joseph appartient. Et lorsque Matthieu écrit aussi « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ », avec le mot « origine », on peut y entendre le mot « genèse ». Et nous pouvons alors deviner le parallèle que Matthieu tente de faire avec le récit originel de la création au début de la Bible. Avec une certaine poésie, il essaye de mettre par des mots ce qui ne peut pas se dire, ce qui ne peut pas se saisir de la naissance du Christ. Le souffle de vie force créatrice par excellence, est au cœur de cette naissance, comme au cœur de la création depuis les origines. La venue du Christ est ce commencement de la création nouvelle. Son nom, Jésus, est porteur d'une mission, sauver son peuple de ses péchés. Jésus ne vient pas supprimer le péché, mais il permet à l'homme de ne pas s'y emprisonner. Il vient aussi proposer un regard nouveau sur la loi, en l'inscrivant dans le cœur de l'homme comme un chemin de libération.
Jésus vient inscrire la loi de Dieu dans le cœur de l'homme comme un chemin de libération. Et Joseph est un homme juste, mais il ne cède pas à la rigidité de la loi de Moïse. Il écoute ce que Dieu lui dit à travers l'ange, dans la nuit de son doute et de ses interrogations. Joseph grandit dans sa notion de justice. Il s'oriente vers la justesse. Une force intérieure, sa conscience, symbolisée par l'ange de notre récit, le pousse à dire oui à ce projet insensé. Une confiance prend naissance autrement dans la vie de Joseph. Il garde et protège Marie, il garde et protège l'enfant, il accepte de rentrer dans une aventure dont il ne sait pas encore où cela le mènera.
Et cet enfant, qui deviendra Jésus, est à l'origine d'une révolution complète dans la foi des hommes. Jésus inaugure par son ministère et sa vie une nouvelle relation à Dieu, dans laquelle Dieu se met au niveau des hommes. La souffrance des hommes devient la souffrance de Dieu, mais l'amour des hommes devient aussi son amour. La joie humaine devient encore la sienne, comme si la distance était abolie. Jésus ne parle pas de Dieu comme d'une législation à appliquer à la lettre, mais comme d'un Père qui regarde sa créature au plus profond d'elle-même. Et Jésus dira aux hommes de regarder leur prochain avec ce même regard, avec ce qu'on appellera le regard du cœur. En Jésus, Dieu est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec Marie, comme il est avec Joseph, mais aussi avec chacun de nous. Joseph, en épousant Marie, enceinte d'un autre, même si c'est de l'Esprit Saint, élargit le champ de la vie et de l'amour. Il approfondit aussi le sens de la loi de Moïse. Chacun est invité dès lors à ne plus regarder son prochain en fonction de ce qu'il fait ou à partir des apparences qu'il se donne, ou du jeu qu'il joue, mais à partir de ce qu'il est fondamentalement. La foi des hommes sera une réponse libre à l'amour premier de Dieu. Joseph inaugure à son tour ce oui à Dieu.
Oui, Joseph inaugure à son tour ce oui à Dieu. Alors, que peut représenter ce récit pour nous aujourd'hui ? Dieu, en Jésus-Christ, s'approche aujourd'hui des hommes et des femmes de notre temps en donnant à cette rencontre une consistance nouvelle. Dieu, en Jésus-Christ, donne une nouvelle qualité dans la relation entre les êtres humains, basée sur la reconnaissance de l'autre comme étant une personne digne de respect. Dieu, en Jésus-Christ, dit que chacun de nous a du prix à ses yeux. La nouveauté, c'est que personne n'est exclu de ce regard favorable. Dieu, en Jésus-Christ, vient aussi à notre rencontre de façon imprévisible, inattendue, inhabituelle, en empruntant parfois des chemins qui peuvent choquer les mœurs et bousculer les lois. Avec cette naissance hors norme, Dieu continue de ne pas ressembler à ce que nous prévoyons, à ce que nous imaginons de lui. Il est même différent de ce qu'on a appris de lui autrefois et de ce que l'on entend sur lui aujourd'hui. Il bouscule les règles établies, qu'elles soient naturelles, législatives, dogmatiques ou rituelles. Il ne se trouve pas forcément au rendez-vous que nous lui fixons. Mais il nous invite à le rejoindre là où il nous fait signe, dans des endroits insoupçonnés, dans des situations fortuites.
Nous ressemblons alors à Joseph qui s'interroge. À notre tour, nous nous posons la question de savoir ce qu'il faut faire dans certains cas, et nous avons besoin de temps pour discerner comment être juste, comment passer à notre tour de la justice d'une situation à la justesse du cœur. Savez-vous que nous aussi, nous avons nos anges, au vrai sens du terme. Nous avons nos messagers dans les personnes qui nous entourent et qui nous aident à prendre du recul, à analyser, à discerner le faux du vrai, et nous aident à faire des choix. Ces personnes contribuent aussi à identifier et à reconnaître la présence de Dieu dans nos propres vies.
Dire que Dieu est Emmanuel, c'est dire que Dieu choisit d'avoir besoin des hommes pour se révéler au monde. Si Dieu a besoin du oui de Marie pour mettre cet enfant au monde, il ne peut pas se passer du oui de Joseph. C'est pour cela que Dieu vient dire à Joseph qu'il a besoin de lui aussi. Et Joseph, c'est nous. Comme la plupart d'entre nous, Joseph sait sûrement ce qu'être père veut dire. Assurer une descendance en donnant son nom et une éducation, en transmettant un métier, des valeurs et des convictions. Mais Dieu vient lui dire, comme à nous, qu'être père, c'est se déposséder de ses propres rêves et accompagner son enfant en le laissant s'épanouir et en le laissant répondre à sa propre vocation.
Comme la plupart d'entre nous, Joseph pense savoir ce que Dieu attend de lui. Être un homme juste, qui respecte la loi. Et Dieu vient lui dire, comme à nous, « J'ai besoin de toi en tant qu'homme, avec tes limites et tes faiblesses, avec tes doutes et tes espérances, pour un projet qui te dépasse. » Comme la plupart d'entre nous, Joseph pense savoir ce que vivre veut dire, ranger sa vie au plus près de l'idéal qu'il s'est choisi. Mais Dieu lui dit, comme à nous, « Vivre, c'est plonger dans l'aventure, c'est faire confiance pour se laisser rencontrer et aimer au plus profond de notre intimité. C'est passer de la justice à la justesse. »
Et si pour nous, la nouveauté de ce Noël 2022 était de nous mettre ou de nous remettre à disposition de Dieu par l'intermédiaire de ses messagers que nous rencontrerons aujourd'hui ou demain ou dans les jours prochains. Amen. Thank you.
Seigneur, nous te prions pour toutes les tragédies de ce monde. Nous remettons à ton amour les peuples qui souffrent et les personnes sans cesse bafouées, emprisonnées, humiliées, et nous pensons en particulier au peuple d'Ukraine. Nous te prions pour les familles actuellement éprouvées par le deuil de leurs proches. Nous te prions pour celles et ceux qui passent Noël en prison ou à l'hôpital, ou en maison de retraite, ou loin de leur famille. Qu'une visite soit en ce jour une source de joie, d'espérance et de douceur.
Seigneur, donne la paix à notre monde, qu'elle soit entre nous et en nous. Renouvelle notre confiance pour les projets que nous formons jour après jour. Accorde-nous de reconnaître, dans les hommes et les femmes que tu nous fais rencontrer, des messagers de ta présence et de ton amour qui se fait tout proche. Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres, et nous serons très heureux de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.